pour construire le destin commun. Déclaration de Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, dans son discours de passation de pouvoir avec François-Noël Buffet. Le sport, de la voile, et on parlera évidemment du Vendée Globe dans ce journal, mais aussi de la Sydney Hobart. On retrouvera sur place David Tréguier, skipper calédonien engagé pour la troisième fois sur la plus prestigieuse des courses de la région. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Et en ce jour de Noël, évidemment, l'actualité religieuse est à la une. Avant de célébrer la Sainte Messe de la nuit de Noël, le pape François a ouvert la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, inaugurant ainsi le jubilé 2025 placé sous le thème de l'espérance, une vertu chrétienne incompatible avec la paresse et qui demande à chacun de devenir des pèlerins à la recherche de la vérité. C'est ce qu'a déclaré le Saint-Père dans son homélie. Écoutez.
Sœurs et frères, avec l'ouverture de la porte sainte, nous avons inauguré un nouveau jubilé. Chacun de nous peut entrer dans les mystères de cette annonce des grâces. C'est la nuit au cours de laquelle la porte de l'espérance s'est ouverte au monde. C'est la nuit au cours de laquelle Dieu dit à chacun, il y a de l'espérance pour toi aussi, il y a de l'espérance pour toi aussi, pour nous tous. Et n'oubliez pas, sœurs et frères, que Dieu pardonne tout, il pardonne toujours. Et cela est une manière de comprendre l'espérance.
Et pendant un an, les fidèles du monde entier sont invités à traverser cette porte sainte et ouvrir grand les portes au Christ. 30 millions de fidèles sont ainsi attendus à Rome. Écoutez par exemple la ferveur de ce fidèle mexicain.
Le jubilé est un jubilé qui nous invite à être ouverts à l'espérance. Et d'ailleurs, dans sa lettre annonçant précisément le début du jubilé, le pape mentionne que l'espérance consiste également à être ouvert à la patience, à faire confiance et surtout à avancer sur le chemin du Seigneur, qui est proche de nous et qui nous permet avant tout de marcher dans son amour et dans la foi. C'est quelque chose de très important, surtout parce que de cette manière, on vit le cœur de l'Église. On ressent aussi cet aspect de fraternité à travers une manière universelle, et ce, avec tout le monde, car nous sommes tous frères.
Et ce soir, le pape François prononcera sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. À Paris, les fidèles étaient aussi très nombreux à assister aux différentes messes de Noël à Notre-Dame de Paris, la cathédrale rendue au culte après 5 années sans messe de Noël.
Je viens de Besançon et je suis satisfaite de cette beauté qui a été réalisée et cette messe magnifique. C'est incroyable, incroyable, tellement c'est beau. Ah oui, quand j'ai dit que j'allais à Notre-Dame, oh, tu mettras un cierge, tu prieras pour nous. Avec une amie, elle m'a dit, on reviendra en janvier là.
Quand on rentre dans la cathédrale, déjà on est très ému par ce qu'on voit. Elle est lumineuse de l'intérieur, même quand on la voit le soir comme ça. Et puis après, ce qui m'a frappé, moi, c'est le recueillement des gens qui... Mais il y a des gens qui sont très pénétrés du côté extraordinaire de ce jour, tout simplement, hein.
Nous, on est venu chercher un peu de joie et d'espérance, surtout en cette période qui est effectivement une période très troublée et très anxiogène. Donc voilà, on est venu chercher un peu un contre-feu à tout cela.
Vous êtes venu chercher, mais est-ce que vous avez trouvé?
Oui, ah, bien sûr. Oui, c'est vrai. Dans une certaine mesure, bien sûr. Bon, hein, bon, mais disons que oui. C'était un moment de paix.
La messe de minuit a été célébrée par Mgr Ulrich, l'archevêque de Paris, à 10h ce matin pour nous. Nous avons du prix aux yeux de Dieu, c'est le message de Mgr Calvet, l'archevêque de Nouméa, puisqu'il célébrait de son côté hier la messe de Noël en la cathédrale Saint-Joseph, Michael Juneski.
Oui, des jours de Noël particulièrement compris par les Calédoniens après le contexte que nous avons connu cette année, et notamment la communauté catholique. L'archevêque de Nouméa a lancé un appel à la paix, faisant référence également aux catastrophes naturelles survenues ailleurs dans le monde ces dernières semaines. On écoute Mgr Calvet.
Je crois que le message, c'est celui de Noël, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Si beaucoup de monde est venu ce soir, je pense, dans la cathédrale, mais comme dans toutes les églises sur toute la Grande Terre et aux îles, malgré même ceux qui n'ont pas pu avoir de prêtre, chacun a dans le cœur cette conviction que nous avons du prix aux yeux de Dieu. S'il nous a envoyé un sauveur, eh bien, c'est quand même qu'on a quelque intérêt pour lui. Alors il faut accepter ça simplement, non pas pour être fier plus qu'il y a raison d'être, mais pour avoir simplement la mesure de ce que nous voyons, de ce que nous recevons de la grâce qui nous est faite. Il y a des gens qui ont été blessés au Vanuatu avec le tremblement de terre. On a évoqué également ceux qui avaient été les victimes à Mayotte, dans l'océan Indien. C'est loin de nous, mais quand on nous parle d'un cyclone, on comprend tout de suite ce que c'est. Ces jours de Noël vont être particulièrement bien compris par tout le monde en Calédonie. C'est en même temps une exigence, j'ai essayé de le dire aussi dans l'homélie, d'œuvrer aussi pour la paix avec les dons que nous avons, l'intelligence qui nous est donnée. Ce n'est pas la violence qui peut arriver à des bons résultats, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas des choses comme ça, mais c'est au contraire l'estime. Dieu nous montre la route, à nous de le suivre.
La foule est venue nombreuse pour assister à cette messe, des fidèles qui souhaitaient plus que jamais se rassembler.
Pour la naissance de Jésus, la venue de Jésus, voilà, c'est important, c'est important.
Bien sûr, surtout dans ces moments difficiles, et ça nous fait du bien.
Ça nous a fait du bien. Ça représente beaucoup pour moi, parce que ma grand-mère, elle nous emmenait toujours ici. Là, cette année, elle nous a quittés, et on a un nouveau-né, du coup, ça nous tenait à cœur de venir ici.
C'est important dès qu'on a la possibilité de pouvoir assister à une messe comme ça, surtout en cette période de fête, c'est très important. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver avec son Seigneur, c'est toujours important ça.
Mais c'est important, comme c'est la naissance de, voilà, c'est la veille de la naissance de Jésus, c'est important pour nous les catholiques.
Pour nous, cela fait quand même des effets pour nous, nos enfants, et aussi pour, c'est pour plus tard, ça, toujours avec les finances.
Pour permettre à tout le monde de se rassembler. Et après ce qu'on a vécu en 2024, je pense que c'est pour peut-être cheminer autrement dans notre foi.
Voilà pour ces témoignages hier soir à l'issue de la messe qui se déroulait donc en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa.
Et puis les protestants de leur côté fêtaient la naissance de Jésus ce matin. Une trentaine de fidèles étaient réunis pour le culte au vieux temple à Nouméa, le temps de quelques heures au son des cantiques célébrant le Christ. L'occasion de se rappeler par la prière et d'avoir une pensée pour son prochain.
Ben, on pense à ce qui s'est passé avant la Noël. Il y a des gens qui sont partis. Ben, on pense à la famille.
Un moment de rassemblement?
Oui, et de joie, de paix. C'est pour un peu oublier tout ce qui s'est passé en ce moment. On a besoin de ce Christ pour nous donner la paix.
Je pense un peu à la famille, à tout le monde. Voilà, on prie pour tous, pour la paix dans le monde. Tout ce qui se passe en Ukraine, à Gaza.
On a besoin de cette Noël pour nous donner la paix dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, à Mayotte, au Vanuatu, il y a des choses qui arrivent, mais Dieu, il est là-haut, il nous regarde. Et nous, on a besoin de cet amour-là pour nous tous qui vivent dans ce monde. Merci.
Et ce culte du 25 décembre marque le début d'une semaine de prière pour les protestants, semaine qui se prolongera même au début d'année prochaine. Il est midi passé de 9 minutes, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une première pause dans ce journal avant de voir le côté festif de Noël, évidemment avec les animations d'hier et notamment la tournée du Père Noël, mais aussi les cadeaux pour les petits.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par Internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
RRB 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Noël pluvieux, Noël heureux, on pourrait le résumer comme ça. Partout sur le territoire, les festivités de Noël ont démarré sous la pluie hier soir, mais rien ne pouvait empêcher les enfants de s'amuser et de profiter des animations proposées dans les différentes communes de l'agglo, Léo Fichou.
Et oui, à Nouméa, Païta, Dumbéa et au Mont-d'Or, les familles étaient nombreuses à participer aux festivités de Noël, des animations, des spectacles, des manèges, mais aussi la tant attendue visite du Père Noël. Les enfants étaient aux anges.
Oh,
vient de faire une photo avec le Père Noël au Mont d'Or. On a fait la voiture et on a fait le carrousel.
On a pris une photo avec le Père Noël.
Et Noël, c'est la naissance de Jésus.
Il était gentil et il avait une grande barbe.
J'ai fait l'élastique, j'ai fait les quatre manèges ici.
On a joué aussi au château gonflable.
Au dame, c'était bobo, c'était trop bien.
Ben, je suis venue m'amuser pour voir les décorations, pour aller voir le Père Noël.
On vient de faire une photo avec le Père Noël et on est très contents.
Et forcément, Nicolas, si les enfants sont heureux, les parents le sont aussi.
C'est vraiment joyeux pour les petits d'être là, hein. Ils sont contents.
De voir les enfants avec un grand sourire aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir.
Et bon, c'est important, on a du monde. Et puis pour eux, le Père Noël, c'est sacré, c'est intangible, même avec la pluie.
Ce soir, comme c'est, voilà, on va dire un peu période de crise, mais on fait quand même dans l'esprit de Noël. Voilà.
Et puis aujourd'hui, ben, on pense plus aux générations futures. Et on invite tout le monde à faire de même. À ouvrir son cœur et puis qu'on redevienne un peu comme avant.
Et dans toutes les communes de l'agglomération, et notamment au Mont d'Or, le Père Noël a pris le temps de faire de nombreuses photos avec les enfants. Comme chaque année, il est comme chez lui, au Mont d'Or.
Comme chaque année, c'est toujours un bonheur de se retrouver en famille. Les enfants, vous avez vu, ils sont beaux, ils ont des petits nœuds papillons rouges. Les parents ont fait le petit geste, le petit effort pour marquer le coup. Ils sont tous en rouge, en blanc. C'est magnifique, le Père Noël se sent chez lui au Mont d'Or. Il est bien arrivé, il est là, j'ai la clé pour ouvrir toutes les chaumières et toutes les maisons. Et tous ces enfants ont bien mérité d'avoir justement ces petits cadeaux de fin d'année. Et je souhaite à tous les auditeurs d'ORRB une très très belle fête de fin d'année, un très très joyeux Noël.
Et des festivités de Noël qui vont continuer aujourd'hui, en famille, entre amis, avec l'ouverture, pourquoi pas encore, des cadeaux.
Et justement, on parle cadeaux, les enfants ont pu découvrir des nouveautés et ont souvent été, il faut le dire, Michael Juneski, ravis aujourd'hui.
Exactement, malgré les caprices de la météo, c'est un classique du 25 décembre, les sorties en famille pour tester les jouets. Si le soleil est discret, le temps reste idéal pour les plus petits qui découvrent par exemple leur premier cerf-volant accompagné de leurs parents.
Le Père Noël, il est passé et on profite qu'il ne pleuve pas. Et pour tester le cerf-volant dehors, le vent, tout va bien, c'est parfait. Donc là, Marius, 2 ans et demi avec le cerf-volant, c'est juste l'image de Noël parfaite avec le petit qui teste les jouets, c'est chouette.
Papa Noël et le
Qui c'est qui t'a apporté tous ces cadeaux?
Papa Noël.
Alors tu es content?
Oui, ça va bien.
Papa aussi, je vois qu'il teste. Il y a le test pour les petits, puis on en profite aussi, ça nous ramène en enfance.
C'est vrai, exactement, ouais. Exactement, ça nous ramène à l'enfance. On essaie de lui faire apprendre un petit peu les rudimentaires du cerf-volant.
Et toujours dans les airs, mais en plus sophistiqué, le petit Creston, 7 ans, découvrait lui un aéronef téléguidé.
Un drone.
Comment ça marche?
Ça marche comme ça. Vous avez vu? Il peut en même temps décoller et descendre.
T'avais déjà piloté les drones avant ou c'est la première fois?
C'est la première fois que je pilote. J'y arrive bien.
Et un peu plus grand à présent, côté sport, pour Mathis, 12 ans, c'était l'heure d'essayer son tout dernier VTT.
J'ai eu un nouveau vélo Specialized. En fait, c'est celui que je voulais. Je l'attendais depuis très longtemps. Il est noir mat avec le logo noir brillant. Frein à disque hydraulique, monoplateau, 9 vitesses, j'ai vraiment été content.
Ça va servir à faire des figures, c'est plutôt quoi que tu vas faire?
Plutôt des transferts, il faudrait que je m'entraîne aussi.
Du freeride?
Oui, en tout terrain aussi, boucle de China. C'est le plus beau vélo que j'ai eu jusqu'à maintenant.
Voilà pour ces quelques témoignages des enfants toujours heureux, évidemment, de découvrir ce Noël leur nouveau cadeau.
Et comme chaque année, le magasin Jouet Club de la Vallée des Colons restait ouvert en ce 25 décembre jusqu'à midi pour assurer le service après livraison du Père Noël, à la fois évidemment pour recevoir d'éventuels jouets qui ne fonctionneraient pas ou encore pour des familles ayant besoin d'un cadeau de dernière minute. Didier Lamiel, le directeur de Jouet Club.
On estime ça logique d'être ouvert le 25, surtout un magasin de jouets, surtout pour les petits. Quand le Père Noël, il amène un produit et que le produit ne fonctionne pas, ou qu'il a amené deux fois le même, pourquoi pas, c'est aussi possible. Donc, qu'il y ait au moins un service pour que l'enfant, qu'il ne soit pas triste que le Père Noël ait amené quelque chose qu'il ne fonctionnerait pas. Ce matin, on a eu une personne qui, avec une voiture radiocommandée qui apparemment a un défaut. Bon, elle n'est toujours pas revenue, donc on ne sait pas si c'est un problème de pile, un défaut de fabrication, on ne sait pas. Et un autre véhicule d'une personne qui est de brousse, porteur à batterie, où apparemment il y aurait la marche arrière qui fonctionne. La vitesse numéro 2, oui, mais la première vitesse, non. Donc là, la personne, elle déposera le produit que, ben, après janvier, quoi. Avec Internet, comme les gens, ils peuvent aussi passer des commandes sur Internet, sur les sites. Donc normalement, quand ils envoient un message, avec la technologie actuelle, je vais dire, on peut voir ça en temps réel. Donc la personne, qu'elle fasse un message à 6h le matin ou à 23h, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui.
Vous êtes sollicité, hein. On l'entend, hein. Ça permet aussi, à chaque fois, vous constatez qu'il y a des clients qui viennent le 25 même.
Oui, le 25 même, ben, y en a qui sont invités, ou alors que le Père Noël, ben, malheureusement, il a oublié un cadeau. Donc c'est vrai que la fréquentation du 25, elle est très faible, mais ce n'est pas grave, c'est le service, ça fait un petit plus pour nous, on va dire. Joyeux Noël à tous les éditeurs d'RRB, je pense que ça, c'est primordial.
Des propos recueillis ce matin par Mickaël Juneski, puisque le magasin Jouet Club de la Vallée des Colons restait ouvert jusqu'à midi. Et puis, le plus beau des cadeaux également, comme chaque année, Radio Rythme Bleu vous dévoile le premier bébé né le jour de Noël. Il s'agit de Kenalian, une petite fille de 2,607 kg, née à 5h50 au Medipôle ce matin. Félicitations à ses parents venus de Wailou.
À Radio Rythme Bleu, 12h17.
Et un Noël pour tous maintenant avec cette opération menée ce matin à la clinique Quindomanien. Les disciples d'Escoffier et les mamans roses ont joué au père et au mère Noël, Léo Fichou.
Et oui, les cuisiniers de l'association des disciples d'Escoffier ont préparé et livré des repas de fête à la clinique aux alentours de 10h. Puis après avoir mis en place les plateaux, les mamans roses ont servi ces plats aux patients en soins palliatifs.
Le gars Christophe, on me connaît plus le nom de Toto, je suis chef au bout du monde. Et je suis président des disciples d'Escoffier Nouvelle-Calédonie. Cette année, on a du foie gras, on a du pâté croûte au foie gras, de la mousse de foie aussi. On a du houmous avec des pitas et des bûches de Noël royal chocolat aussi. Et je crois qu'il y a, il y a du sashimi aussi, sashimi de thon. C'est pour leur faire plaisir, pour faire du bien aux gens, là, c'est Noël, quoi.
Stella Capillon, présidente des Mamans Roses. Depuis l'année dernière, nous venons ici à la clinique pour justement faire profiter le service oncologie de ces chefs et de leur mets succulents, quoi. Donc, effectivement, peut-être pour leur dernier repas, quelque chose de plus festif que ce qu'ils ont habituellement.
Une opération mise en place depuis plusieurs années. Donc, c'est Corinne Pratt, référente séjour patient à la clinique, qui en est à l'origine.
L'année dernière, nous avions mis en place déjà cette opération. Donc, ils sont revenus avec joie et plaisir. Et les mamans roses sont là pour nous aider à servir les plats et tout ça dans la bonne humeur. Un petit peu de plaisir gustatif dans leur traitement qui est compliqué et difficile, ça leur apporte beaucoup de joie et de bonheur et dans des moments vraiment très 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 difficiles.
Du côté des patients comme des soignants, une opération comme celle-là fait toujours chaud au cœur. Tous étaient ravis de recevoir ces repas de fête. On écoute le docteur Mathias, puis Dimitri et Corinne, patients en soins palliatifs.
Déjà, c'est compliqué d'être hospitalisé pendant Noël et être loin de la famille. Donc, en général, les patients sont ravis et ça le fait vraiment beaucoup de bien d'avoir cette petite soleil dans le cœur.
C'est dans la maison, c'est rare que tu trouves des repas comme ça. Comme on est à l'hôpital aujourd'hui, oh, ça fait du bien. Merci encore.
C'est très gentil à eux de prendre du temps pour nous, de préparer ce repas. Ça fait chaud au cœur. Voilà, ça met un petit rayon de soleil dans notre journée.
Et les mamans roses et les disciples d'Escoffier ont promis de renouveler l'opération l'année prochaine.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et avant de refermer cette page, c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, la réponse à notre question d'hier. Et à l'unanimité, les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS ont revu leur budget à la baisse pour les fêtes de fin d'année. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour une nouvelle question du jour. Et puis, je vous rappelle évidemment que sur Radio Rythme Bleu, on vous accompagne en ces périodes de fête. Hier soir, les équipes étaient mobilisées pour vous faire passer un agréable réveillon. Eugénie et Nicolas étaient aux platines. Vous l'avez entendu aussi, nos reporters étaient sur le terrain à la rencontre du Père Noël. Et ce matin, Thierry vous a proposé les dédicaces de Noël. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à envoyer vos messages ou à nous appeler. Il est midi passé de 20 minutes. Merci à tous d'être avec nous. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de revenir au reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. L'actualité dominé, vous le savez, par la chute du gouvernement Mapou.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Psst, et toi, tu sais comment on reconnaît le goût d'un bon café en Calédonie ?
Ça commence par...
Après, ça fait. Ensuite, ça fait. Et là,
tu connais ?
Eh oui, c'est la boîte Nescafé. Un café au goût unique, riche et intense. La boîte Nescafé, le vrai goût calédonien.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'InfoMag, on retrouve Nicolas Legrand.
Et avant de parler de la chute du gouvernement Mapou, cette information qu'on vous avait donnée dès hier soir, cette période de Noël a été endeuillée sur la côte Est. Un homme a été tué au cours d'une bagarre à Point-d'Imier hier après-midi. Il aurait reçu des coups de sabre d'Abati. Les faits se sont passés dans le secteur de Pahama. Les secours sont intervenus, mais en vain. L'auteur présumé des coups a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est en cours. Le gouvernement Mapou est donc tombé dans un courrier hier. Jérémy Katidjo-Monier, le membre calédonien Ensemble et ses suivants de liste ont annoncé leur démission au président Mapou.
Ouais, selon la lettre que nous avons pu consulter, Jérémy Katidjo-Monier explique sa décision. Il fait part des tensions entre le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, alors que les événements du 13 mai obligent, selon lui, à la solidarité entre les institutions. Il regrette notamment les emprunts négociés par le gouvernement auprès de l'État, alors qu'on sait que Calédonie Ensemble était à l'origine du plan porté par plusieurs groupes du Congrès qui visent à obtenir des subventions. Pour mémoire, le gouvernement Mapou avait succédé au gouvernement Santa qui avait chuté sur la démission des indépendantistes. Louis Mapou avait ensuite été élu le 16 juillet 2021 après 5 mois de difficiles tractations entre les listes UC et UNI. Le 17e gouvernement est donc démissionnaire et s'occupe depuis hier soir uniquement des affaires courantes. Le texte portant réforme de la TGC pourra toutefois être examiné ce jeudi par les élus du Congrès, car il a été examiné en séance hebdomadaire avant la démission du gouvernement. Le Congrès se réunira dans les 15 jours pour fixer le nombre de membres du gouvernement collégial, qui peut aller de 5 à 11, et procéder à leur élection. Dans un communiqué, la présidente du Congrès, Velma Falaeo, indique que le bureau du Congrès se réunira dans les meilleurs délais afin de fixer le calendrier du processus électoral. Ensuite, une fois élus, les membres de l'exécutif se retrouveront sous 5 jours pour désigner parmi eux un président et un vice-président. Président.
Une chute du gouvernement qui fait toutefois peu réagir la classe politique pour le moment. Yoann Lecourieux, le maire de Dimbéa et membre du gouvernement, a tout de même souhaité s'exprimer hier soir en marge des festivités de Noël. Et il regrette une telle attitude de la part de Calédonie Ensemble.
Je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle en cette période de Noël et en cette période de festivités. C'est un acte d'un parti politique qui est habitué à faire tomber les gouvernements. Et je pense que c'est un acte fou. Décidé par une personne, en plus de rajouter du chaos en Nouvelle-Calédonie, à un moment où la Calédonie a besoin d'une certaine stabilité et de pouvoir se reconstruire. Et en l'occurrence, là, nous avons un acte fou, sûrement pour des ambitions très personnelles des uns et des autres. J'espère qu'ils ont préparé la suite, parce qu'un gouvernement intérimaire ne peut pas prendre beaucoup d'actes budgétaires et d'actes fiscaux, ce qui est malheureux en cette période où on devra construire un budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie. Donc j'espère que ceux qui ont fait tomber le gouvernement avec leurs amis trouveront des solutions rapides pour donner un peu d'espoir aux Calédoniens.
Autre réaction sur Facebook, Philippe Blaise, des loyalistes, écrit « Nous n'avions pas besoin de ça ». À Paris, pendant ce temps-là, la nuit a été marquée par les passations de pouvoir dans les différents ministères au lendemain de l'annonce du gouvernement de François Bayrou. Parmi ces passations, celle au ministère des Outre-mer entre François-Noël Buffet et l'ancien Premier ministre de François Hollande, Manuel Valls. Dans un discours très sobre, le ministre démissionnaire François-Noël Buffet a brièvement résumé son séjour dans ce ministère. 3 mois intenses, 3 mois marqués également par les urgences, mais aussi un sentiment d'inachevé.
Au moment de vous transmettre le flambeau, monsieur le ministre d'État, quelques observations. La première, c'est que ce fut 3 mois d'action marqués par les urgences. La Nouvelle-Calédonie, la Martinique, Mayotte, qui veut demander beaucoup d'attention et de constance dans les mois et les années qui viennent. Et j'ai à ce moment une pensée particulière pour nos compatriotes qui connaissent une situation encore très difficile. Chacun a bien compris qu'il s'agissait de nos compatriotes mahorais. 3 mois de contact aussi avec de très nombreux acteurs des Outre-mer, ici, à Oudinot, comme il est d'usage de le dire, comme sur les territoires, et notamment avec les élus très engagés au service de leur territoire et de leurs concitoyens. Trois mois de combat intense pour redresser la barre budgétaire. Trois mois enfin pour engager des chantiers structurants en vue de la tenue du futur CIOM. Démarche autour du pouvoir d'achat et de la vie chère, souveraineté alimentaire, économie bleue. Sentiment évidemment d'une tâche inachevée, mais certitude que ces sujets continueront d'être traités. On dit souvent, monsieur le Premier ministre, que bien sûr vous avez connu Matignon. Eh bien on dit qu'ici c'est un petit Matignon. Alors évidemment, on tente à s'occuper de tout. Tous les sujets arrivent rue Oudinot, mais cette palette de sujets est tellement passionnante qu'elle va être aussi, malgré les difficultés, un moment de bonheur.
Et dans sa réponse à François-Noël Buffet, le nouveau ministre d'État chargé des Outre-mer, Manuel Valls, a d'abord évoqué la situation à Mayotte. C'est bien sûr l'urgence, la priorité du gouvernement. Mais pour Manuel Valls, l'autre urgence de son ministère, ce sera évidemment la Nouvelle-Calédonie. Pour construire avec tout le monde un destin commun, il va falloir être inventif, déclare l'ancien Premier ministre. Mais dans l'immédiat, pour lui, il faut surtout que le territoire se dote d'un gouvernement local le plus vite possible.
Je veux d'ailleurs penser également, puisque nous évoquons l'urgence, à la Nouvelle-Calédonie, nous l'évoquions, monsieur le ministre, ce territoire que je connais bien et qui est meurtri par les émeutes, les violences, avec son cortège de morts et de blessés, ses fractures, ses divisions et une économie exsangue. Vous avez beaucoup travaillé, monsieur le ministre. L'État soutient, doit soutenir ces territoires. C'est pour cela que nous avons besoin d'un budget. Sinon, il risque d'y avoir davantage de difficultés, et pas seulement en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il nous faudra construire avec tout le monde un chemin, un destin commun. Il va falloir être inventif, respectueux de chacun, et j'ose dire responsable. Responsable. Et de ce point de vue-là, la Nouvelle-Calédonie a besoin d'un gouvernement le plus vite possible. Difficile de construire l'avenir sans un gouvernement pour l'archipel.
Manuel Valls qui a aussi expliqué quelle serait sa méthode et le maître mot, ce sera l'écoute. L'écoute de tous, des élus comme du monde économique ou des citoyens, avec aussi une allusion très appuyée de Manuel Valls aux accords de Matignon-Oudinot.
Je mesure, je l'ai dit, les urgences. Je connais les attentes et je comprends les besoins. Il faut y répondre en mettant évidemment en place une méthode, en multipliant les visites, en rencontrant, en écoutant l'ensemble des acteurs, en prenant appui sur les maires, les élus, les présidents des collectivités, les députés, les sénateurs, les forces économiques, sociales, culturelles, les associations et évidemment d'abord et avant tout les citoyens. Mais je n'oublie pas le temps long nécessaire à la considération des Outre-mer. Vous aviez parfaitement raison en disant que nous sommes les éléments d'une lignée et d'une relation exceptionnelle. Et plus largement, nous devons penser à ce qu'est l'élaboration de toute politique digne de ce nom. À Matignon, le vrai, pas si loin d'ici, Michel Rocard et Lionel Jospin, que j'ai servi, pour ne citer qu'eux, ont illustré avec éclat ce qu'une telle méthode concertée, sous l'égide du dialogue et du respect, avec la prise en compte des moyens et du long terme, entraînait comme résultat positif pour les territoires. Il faut parfois changer de méthode, bien sûr. Il faut se rappeler cela.
Et enfin, Manuel Valls a aussi expliqué pourquoi le ministre des Outre-mer était devenu, depuis hier et pour la première fois, un ministre d'État. C'est tout simplement à la demande du Premier ministre François Bayrou. C'est un grand ministère, un petit Matignon, comme disait autrefois l'ancien président de la République Jacques Chirac, selon Manuel Valls.
Vous ne l'avez pas cité, mais celui qui parlait du petit Matignon, c'était un certain Jacques Chirac. C'est un grand ministère de l'État. Et c'est pour cela que le Premier ministre a souhaité que le ministère des Outre-mer soit un ministre d'État, incarné par un ancien Premier ministre. Je ne sais pas si c'est un plus, mais en tout cas, ça m'oblige. Et pour ma part, dévoué corps et âme à l'intérêt général, je mettrai toute mon énergie au service des ultramarins, partageant leurs envies, leurs craintes, leurs ambitions, pour faire aussi de la rue Oudinot leur maison à Paris, aussi bien qu'un phare ultramarin rayonnant pour des hexagonaux qui, pour une large part, ont encore beaucoup à découvrir à propos de ce territoire, qui sont, sans le savoir, une partie d'elles et d'eux-mêmes.
Des propos recueillis la nuit dernière par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Il est midi 30, on va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive. Et on va aller sur l'eau aujourd'hui avec le Vendée Globe, bien sûr, mais aussi la Rolex Ineobart.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Mercredi 31 décembre, c'est le réveillon du nouvel an. Pensez à réserver votre table dans votre restaurant Pizza & Pasta au 24 30 70. Retrouvez les simulations spéciales Saint-Sylvestre sur la page Facebook Pizza & Pasta.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Et enfin, un clin d'œil à notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Les sports, et on parle de voile aujourd'hui, et c'est toujours très serré en tête du Vendée Globe, Léo Fichou.
Après le passage du Cap Horn, Johan Richomme sur Paprec Arkea et Charlie Dalin à bord de Massif Santé Prévoyance entament la remontée de l'Atlantique. Ils sont à environ 6500 milles nautiques de la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne. Les deux hommes sont au coude à coude au large des îles Falkland. Léger avantage tout de même pour Johan Richomme qui possède 25 000 nautiques d'avance sur Charlie Dalin. Sébastien Simon, troisième sur Groupe Dubreuil, se rapproche du Cap Horn. Il est à 672 000 nautiques de la tête de la course.
Voile toujours, J-1 avant la célèbre Rolex Sydney Hobart. Et des Calédoniens prendront part à cette course de renommée mondiale, Michael Juneski.
Oui, c'est la course de référence dans la région. Un départ de Sydney, la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, pour rallier Hobart en Tasmanie. Au milieu des engagés, plus de 100 voiliers tout de même inscrits sur cette 79e édition, on retrouvera Pulpito MLS SCD, skippé par David Tréguier. À la veille de la course, il nous a déjà raconté comment s'est passé le trajet jusqu'à l'île continent et surtout dans quelles conditions il se prépare.
Le convoyage pour rallier Sydney a été un petit peu mouvementé, mais c'est un peu la taxe de passage avant d'arriver à Sydney. On a eu à gérer un front pluvieux et avec des pointes à 50 nœuds de vent. C'était une bonne préparation pour la course qui nous attend. On n'a rien cassé, le bateau est prêt, l'équipage s'est bien formé et a pris bien conscience de ce qui peut nous attendre.
Et pour David Tréguier, ce sera une troisième participation à cette course de prestige. Sur les 8 membres d'équipage, 4 naviguent toute l'année à bord de Pulpito MLS SCD. Les 4 autres viennent d'autres bateaux calédoniens habitués des régates dans le lagon. Les préparatifs se sont enchaînés ces derniers jours, non sans s'autoriser quelques plaisirs en ce jour de Noël.
Les premiers jours à l'arrivée ont été de préparer le bateau, de passer les visites sécurité. C'est vraiment une course dans la course pour réussir à être au départ. Il faut réussir à passer quelques tests sécurité, montrer que tout est en règle et conforme pour pouvoir affronter les mers du Sud et le temps qui peut être un peu rugueux. On vient de fêter Noël sur les pontons du CYCA avec quelques cadeaux offerts aux participants étrangers. On se prépare, on fait le dernier préparatif avant le départ qui est demain. On se fait une petite sortie, entraînement, cohésion, avec un temps magnifique, ciel bleu, pas un nuage. On est en face de l'opéra, on passe sous le pont pour une journée de Noël des plus magnifiques.
Voilà le départ de notre équipage calédonien et de tous les engagés sur cette 79e édition de la Rolex Sydney Hobart. Ce sera demain à 13h. On continuera évidemment de suivre pour vous l'aventure de Pulpito MLS SCD et de son équipage calédonien.
Ça va sans dire, Michael Juneski. Merci beaucoup pour ce point complet sur l'actualité. Merci à tous d'avoir suivi ce journal.